Bonjour à tous. Le débat ouvert par les Gilets jaunes sur les inégalités doit amener l'exécutif à changer de politique pour le logement. Voilà ce qu'estime la Fondation Abbé Pierre ce matin dans son rapport consacré à l'année 2018, une année marquée par la persistance de 4 millions de mal logés en France. Des candidats en hologramme sillonnant la France en camion. La campagne européenne de la France insoumise débute vers la France des oubliés, voilà ce que dit le parti. Nous étions au lancement de l'événement hier soir, reportage à suivre. Et puis nous analyserons dans ce journal le changement de position du gouvernement français vis-à-vis des djihadistes détenus en Syrie, les djihadistes français. Ils pourraient être rapatriés puis jugés. Et l'on commence donc par ce rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Il est présenté aujourd'hui, rapport sur le mal logement, qui concerne, je vous le disais, 4 millions de personnes en France, des personnes à ne pas oublier, car si la crise des Gilets jaunes a permis de mettre en lumière les difficultés d'une partie de la population qui travaille et ne peut pas vivre de son salaire, la situation des personnes les plus pauvres, elle, est passée sous silence. C'est ce qui inquiète le directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert.
Rarement il y aura eu autant de débats, de prises de parole directes des personnes pour montrer à quel point les personnes souffrent de la précarité, souffrent de la pauvreté, à quel point le logement est déterminant dans les dépenses globales des ménages. Pour certains, c'est 40-50% de leurs ressources consacrées au logement, à quel point certains n'arrivent plus à se chauffer. Ça ne peut pas ne pas conduire à des changements d'orientation, de politique. Par contre, notre crainte à la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'il y ait des réponses qui soient apportées aux classes moyennes inférieures, aux classe populaire, mais que les plus pauvres, les grands précaires, ceux qui n'ont pas la force ou parce qu'ils sont occupés à survivre, ne vont pas se manifester, battre le pavé autour des ronds-points, que cela soit les grands oubliés de cette séquence. Et c'est vrai que dans certaines réponses apportées par le président de la République, le gouvernement, la prise en compte de ceux qui travaillent, par exemple, mais dont les ressources du travail ne suffisent pas à s'en sortir, est agrandie. On dit, on va accélérer la prime d'activité, et c'est bien. Mais l'accélération de la prime d'activité, c'est pour ceux qui travaillent. Quid de ceux qui sont très éloignés de l'emploi ? Quid de ceux qui sont dans des situations tellement difficiles que c'est les besoins de première nécessité qui comptent? Est-ce que ceux-là vont être dans le viseur de cette séquence? Ça reste pour nous encore une inconnue, mais il le faut impérativement pour des raisons de cohésion sociale du pays.
Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, il répondait à Fiona Mogadam. Alors parmi les personnes sans domicile actuellement en France, celles qui sortent d'institutions sont largement surreprésentées. D'anciens jeunes de l'aide sociale à l'enfance par exemple, d'anciens détenus aussi. Des détenus qui en prison ne sont pas mieux logés pour certains. En Guyane par exemple, la procédure d'urgence a été enclenchée face à une situation de surpopulation désastreuse. Une surpopulation qui entraîne aussi de mauvaises conditions de travail pour les surveillants dans les prisons. Hier soir, entre 70 et 80 surveillants pénitentiaires venus de toute la France se sont réunis dans l'Essonne, devant la prison de Fleury-Mérogis. Une grève pour demander une revalorisation salariale. Car un an après le grand mouvement de blocage dans les prisons françaises, rien n'a changé, ou presque, Maxime Fayol.
La situation continue de se détériorer dans les prisons. Le record du nombre de détenus a encore été battu en décembre avec plus de 71 000 personnes. Des conditions de détention catastrophiques à de nombreux endroits et des surveillants découragés selon Thibaut Capel, le secrétaire local FO à Fleury-Mérogis.
Quand vous regardez ce qui se passe sur la maison d'Angers il y a encore quelques temps où un collègue s'est fait égorger, ou quand vous regardez ce qui s'est passé dans le tribunal de Tarascon où c'est un commando qui est venu chercher à l'arme lourde un détenu avec des tirs quand même qui ont été jusqu'à hauteur d'homme sur le pare-brise du véhicule, vous êtes en droit de vous poser la question, qui ferait ce métier-là pour crever quoi, surtout pour pas un rond.
Une situation dénoncée depuis plusieurs années par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan.
Si on cite Fresnes, comme Nanterre, comme Fleury, il y a actuellement un surveillant dans une coursive de 100 détenus. Ça veut dire qu'il passe son temps à ouvrir et fermer les portes et qu'il ne peut plus rien faire d'autre et surtout ne peut pas avoir le moindre contact avec les détenus.
Améliorer les conditions de détention va permettre d'attirer de nouveaux candidats au concours de surveillants, surtout si l'État accepte de mieux les rémunérer, estime Thibaut Capel.
Quand vous regardez les chiffres de recrutement, c'est simple. 20% des personnes qui s'inscrivent au concours de surveillants pénitentiaires sont présents à l'examen. 80 autres ne viennent pas. Il est peut-être temps que la ministre arrête de jouer avec sa calculatrice, arrête de voir combien ça va coûter. Elle le sait en plus combien ça va coûter. Ça va coûter 86 millions d'euros de budget par an. Quand on voit que l'État peut dépenser des milliards sur un coup de tête, il est peut-être temps de sauver la pénitentiaire et de mettre le chéquier sur la table.
Depuis 2 ans, la rémunération nette des surveillants a augmenté de 4%, insuffisant pour les syndicats qui veulent le passage de la catégorie C à B de leur statut de fonctionnaire.
La loi alimentation entre en vigueur aujourd'hui, 1er février, et les prix de centaines de produits vont augmenter. Et cela à cause du relèvement à 10% du seuil de revente à perte dans les grandes surfaces. De nouvelles informations sur Alexandre Benalla. Le site d'information en ligne Mediapart a publié hier le contenu d'une conversation entre l'ancien collaborateur de l'Élysée et Vincent Crase, gendarme réserviste également impliqué dans les violences du 1er mai dernier. La conversation enregistrée date du 26 juillet. Alexandre Benalla se targue du soutien du président de la République, qu'il appelle d'ailleurs patron. Mediapart affirme également qu'Alexandre Benalla aurait passé des contrats avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine alors qu'il était encore en poste à l'Élysée. Nous en venons au lancement de la campagne de la France insoumise pour les européennes. C'était hier soir. Et revoilà les hologrammes. Les 79 candidats ont été présentés ainsi. Jusque-là, l'événement était connu sous le nom de code Opération 471, en référence au numéro de la norme européenne sur le port du gilet jaune. Mais la France insoumise a aussi utilisé ce chiffre pour montrer à quel point le parti serait mobile pendant sa campagne. Ces camions vont sillonner 471 communes d'ici la fin du mois de mai. Sophie Delpont a assisté au lancement de la campagne hier soir.
Une opération de communication orchestrée comme un lancement sur orbite. Alors que quatre camions sont stationnés devant le chapiteau, c'est Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, qui dévoile la signification du fameux code 471 devant des dizaines de militants invités.
Ces camions, ils vont nous projeter dans le futur. It's a revolution. Mais le mieux pour ça, c'est que je vais passer la parole à Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour, mon hologramme est heureux de vous retrouver.
Dans le sillage de l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, d'autres hologrammes se succèdent au fond des camions, ceux des candidats aux élections européennes.
Nadège Montoute, infirmière à Pointe-à-Pitre.
471 Jean-Luc Mélenchon, 471 Leïla Chaibi, 471 fois nos candidats qui vont parcourir la France.
Sur le fond, cette fois, Manon Aubry décline les priorités du programme de la campagne.
Transition écologique, lutte contre l'évasion fiscale, ce sont et ce seront parmi les 12 combats que nous mènerons demain dans le Parlement européen.
Ce nouveau déploiement technologique doit séduire les jeunes tout en faisant écho au succès de la campagne présidentielle et attirer vers ses camions des curieux, notamment des abstentionnistes, jusque dans les territoires les plus isolés. Une manière de ratisser le terrain occupé par les gilets jaunes. Et dans un ultime clin d'œil, Manon Aubry rappelle que 471, c'est le numéro de la directive européenne sur le port des gilets jaunes.
Sophie Delpont. Faut-il rapatrier et juger en France les djihadistes présumés retenus en Syrie par les forces kurdes? Des forces kurdes qui sont probablement incapables de les garder ou de les juger. Ils seraient, ces djihadistes français, 150 selon la ministre de la Justice. 150, dont 48 enfants, dit Nicole Belloubet, qui précise que ces données ne sont pas encore stabilisées. Le gouvernement se dit prêt à les rapatrier. C'est un changement, Mathieu Laurent.
Depuis un an et demi, les forces kurdes demandent aux autorités françaises d'aider au rapatriement des djihadistes présumés de leurs familles. Depuis les attentats en France, les services de renseignement ont accumulé des éléments à charge. Certains terroristes ont été jugés par contumace, beaucoup sont identifiés. La justice, qui déborde d'outils juridiques, est prête à œuvrer, rien de nouveau. Mais cette fois, la sonde lancée par le gouvernement l'oblige à se prononcer sur le sort à réserver aux enfants et à veiller à l'application du droit international, qu'escamotent volontiers certains élus de droite favorables à l'élimination des combattants de Daesh. Nadim Houri est chargé du programme « Lutte contre le terrorisme » à l'ONG Human Rights Watch.
Ils sont en train d'appeler à des crimes de guerre. Parce que soyons très clairs par rapport au droit. Dès le moment qu'une personne est détenue, quels que soient les actes dont cette personne est accusée, on ne peut plus la tuer. La tuer serait commettre un crime de guerre, une exécution non juridique. Donc il faut laisser de côté la question de la démagogie. Il faut aussi arrêter de faire peur aux gens.
Une fois cette surenchère invalidée, il reste les complications que soulève le transfèrement en Irak où la peine de mort est appliquée de ces recrues combattantes de Daesh et leur profil. Marc Ecker est chercheur à l'Institut français international.
Le cœur de la polémique, c'est que certaines de ces personnes sont restées en zone syro-irakienne pendant longtemps, après les attentats du 13 novembre 2015. jusqu'à après la bataille de Mossoul, jusqu'à après la bataille de Raqqa, et on peut considérer donc que ce sont des durs parmi les durs.
Le gouvernement a donc fait le choix, sous la contrainte, de les rapatrier et de les condamner, plutôt que de les perdre de vue, non moins conscients qu'ils représenteront un danger dans des prisons surpeuplées et encore pauvres en quartiers étanches de prise en charge de la radicalisation.
De la pluie pour tout le monde. Météo France annonce de fortes averses ce vendredi qui vont gagner le nord et les Pyrénées à la mi-journée. Les températures remontent un peu avec 2 degrés ce matin à Lille, comptez 5 à Paris, 7 degrés à Bordeaux, 13 à Marseille.